Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Aujourd'hui, je réagis sur un article dans la presse qui nous apprend que... qui nous dit un peu c'est quoi le mode de fonctionnement des douaniers américains quand c'est une traversée illégale qui a lieu entre le Canada et les États-Unis. Parce qu'on a beaucoup entendu parler les derniers mois à cause du chemin Roxham. Du sens inverse, tu sais, parce qu'on disait, crime, c'est une passoire totale, les gens arrivent, bon, blablabla. Je vais essayer de vous résumer ce qu'il y en est du mieux que je peux. Je suis pas un spécialiste là, de tout ce qui s'appelle les législations migratoires, etc., mais tu te rends compte qu'au final, c'est très idéologique. Donc, ça devient politique dans la mesure où tout à coup, ça fait les nouvelles, que ça concerne les gens, etc., parce que tant que quelque chose n'a pas de portée médiatique, c'est rare que ça fait partie de... Puis habituellement, ça n'a comme pas d'impact. Donc, les médias, la politique, c'est extrêmement lié, c'est bien normal, à cause du mécanisme des élections. C'est-à-dire que, tu sais, si personne parle qu'il y a une criminalité particulière à quelque part, que ça passe toujours en dessous du tapis, ben qui s'en occupe? Parce qu'au final, ça dérange personne. Ou ça dérange un petit groupe qui n'est pas capable d'avoir un haut-parleur pour concerner plus de monde, tu sais. J'invente rien, mais partons de là. Il y a tout un débat qui a lieu, vous nous avez entendu parler, à savoir si, quand quelqu'un traverse des États-Unis au Canada, par le chemin Roxham, par exemple, si c'est une traversée illégale ou irrégulière. C'est pas la même chose. Illégal, ça veut dire que t'as pas le droit, OK? C'est illégal de passer sur un feu rouge. Irrégulier, ça veut dire que techniquement, t'as pas le droit... Mais il y a comme un bémol qui fait qu'on peut pas dire que c'est totalement illégal. Dans le cas du chemin Roxham, c'était les demandes d'asile. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, presque tous les pays ont signé une convention qui dit que quand tu rentres dans un pays et que tu demandes l'asile, les pays sont obligés de te prendre en charge, donc de te prendre en charge, d'enquêter pendant que tu es sur le territoire, ici au Canada, au Québec, excusez-moi, et éventuellement de dire ta demande est acceptée ou refusée. Donc, c'est pas automatique. C'est pas genre, hey, moi, je rentre, je demande le droit d'asile, puis je suis maintenant un citoyen canadien. C'est pas ça du tout. Il y avait d'ailleurs une entrevue dans la presse, je pense, il y a quelques mois de ça, d'un homme qui avait fait ça, lui. Il était à retraite, mais c'était ça, lui. Il étudiait ces dossiers-là, puis il disait, écoute, il dit, dans la majorité des cas, les gens étaient... On les retournait, etc., blablabla. Bla, bla. Alors, après ça, on peut alléguer, mon Dieu, quelle lourdeur, blablabla. Bla. Comment ça se fait qu'on les ramasse, qu'on les étudie? Pourquoi ils font pas une demande d'asile dans leur pays respectif? Bien, c'est parce que, à la base, quand tu demandes l'asile, c'est supposé, c'est pour ça que c'est sujet à débat, tout ça. Quand tu demandes l'asile, t'es supposé être en danger chez vous. Fait que c'est difficile de dire à un Iranien qui veut se faire pendre, va tranquille, là, en scooter, à l'ambassade du Canada, puis cogne à la porte. Ah, OK, vous ouvrez juste dans une... Tu sais, tu comprends que... Sauf que, est-ce que c'est le cas de tout le monde qui fait une demande d'asile? Est-ce que, par définition, si tu dis, ah, il y a eu tant de demandes d'asile, mon Dieu, les gens cherchent... Ils cherchent à fuir la misère. Non, attends. Parce que c'est libre à tout le monde de dire, coucou, moi, je demande l'asile. Donc, ce n'est pas une demande régulière comme quelqu'un qui dit « je veux m'installer pour étudier, je veux m'installer pour travailler ». En France, ils appellent ça aussi le regroupement familial, c'est-à-dire un immigrant qui est reçu en France, tout à coup peut faire venir sa famille immédiate. Il y a plein d'affaires. On tourne les coins ronds vite des fois, mais... Fait que donc, une demande d'asile, il a été décidé dans cette convention-là que ça se faisait dans le pays où tu voulais aller, qu'on te prend en charge, qu'on examine ta demande. Puis après ça, chacun décide selon leurs critères. Alors ça, il n'y a pas de critères internationaux. Tu es obligé de le prendre, lui. Mais tu es obligé de dire, ah, un demandeur d'asile, je le prends, j'examine son dossier selon mes critères. Ça, c'est, si tu veux, la base. Alors donc, quand il y a une place où ce que ça rentre, comme était le chemin Roxham, ben les gens vont dire, ah, ben ils ont le droit de demander l'asile. Donc, c'est pas illégal de le faire. Mais c'est irrégulier parce qu'il y a un genre de trou bizarre où ce que ça rentre. Puis là, mais chacun y va, vous aurez compris, de ses sensibilités. Donc, si t'es très humaniste, pro-immigration, tu fais ça pas de sens, il faut ramasser ces gens-là, blablabla. Puis si tu es plus de nature conservateur en disant, ben là, les États-Unis, eux autres, ont décidé de pas se casser la tête avec ça du tout. Donc, tu traverses la frontière, c'est illégal. C'est pas compliqué. Ou tu passes par une frontière normale, comme on fait tous, tu présentes tes papiers d'identité, puis on te dit, tu rentres, tu sors. Ou tu rentres en cachette, puis t'es illégal. Et là, ben, récemment, depuis la fermeture du chemin Roxham, ben, on apprend qu'à partir du Canada, donc pas du Mexique, mais à partir du Canada, ceux qui rentrent aux États-Unis et qui sont déclarés illégaux, ils les amènent dans le sud, ils repitchent chez eux. Ah ouais, direct. Ça fait qu'imagine quelqu'un qui est parti du Mexique avec ses valises, ses deux enfants, il y a un bout en autobus, tout, il dit « Regarde bien, on va passer par le Canada. » Aïe, il repart. Alors, évidemment, c'est pas drôle parce qu'on parle pas de bandits, là. Faut bien comprendre, c'est vraiment des gens. Mais, comme disait je sais pas qui, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Où il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est que les pro-immigration vont vous dire, pour des raisons humanistes, ça n'a pas de sens, c'est des gens qui fuient, qui cherchent un meilleur destin, pourquoi pas, blablabla. Toutes des raisons qu'à moins d'être un sans-cœur, tu ne peux pas écouter. Je répète que tu peux te rendre puis demander l'asile, puis là, les pays signataires font comme « OK, on te prend ». Mais après ça, il y a un petit truc qui vient changer la donne, ça s'appelle la souveraineté. Les pays sont souverains. C'est-à-dire que moi, ce qui se passe en Hongrie au niveau de l'immigration, ça ne me regarde pas. Je peux le critiquer, je peux dire quelle bonne idée on devrait faire pareil, je peux dire c'est des sans-cœurs, mais au final, ça ne me regarde pas. Donc, les critères, outre le droit d'asile, là, comme je vous le décris, les critères pour dire chez nous, l'immigration, c'est de même, ça regarde chaque pays, tiens. Fait que moi, c'est ça ma prise de position personnelle par rapport à ça, c'est de dire, écoutez, je veux dire, à partir du moment où tout à coup, il y a eu des sparages faits par... François Legault en disant, François, voyons, le Roxham, ça arrive, puis c'est nous autres au Québec après qu'il faut qu'il les loge, etc., blablabla. Bla, bla. On peut dire qu'on est pour ou contre. Moi, à la rigueur, mon point, c'est de dire, chaque État est souverain. Le Canada a le droit d'avoir sa politique à cet effet-là. Les États-Unis, je veux dire, d'en faire un débat comme quoi ça devient un débat éthique, puis que t'es soit dans le camp des bons qui accueillent, des méchants qui veulent fermer. Moi, j'achète pas ça, je suis pas là pantoute. Mais il y a une affaire qui est mon sujet vraiment aujourd'hui, parce que je vous fais tout ça, c'est pour vous amener à quelque part, c'est que, puis ça m'a fasciné, c'est un roman que j'ai lu, mais qui est tiré du procès de Nuremberg, on entend souvent parler. Oui, les États puis les pays sont tous libres de leur politique migratoire, de leur loi à cet effet-là, etc., sauf, en tout cas, en un mot, là, je vais vous le résumer du mieux que je peux, chaque pays choisit comment les gens entrent. Ça ne regarde personne. OK? À part très précisément la Convention sur le droit d'asile, ça ne regarde personne. Et personne, d'ailleurs, fait de l'ingérence à cet effet-là, vous remarquez. Mais c'est pas vrai que tu peux faire la même affaire avec ta propre population. En un mot, tu peux choisir qui rentre, pourquoi. Mais une fois que les gens sont rentrés, c'est pas vrai que tu peux faire ce que tu veux avec. Ça a l'air bizarre comme quand je vous dis ça. Ça a l'air comme genre, ben c'est sûr, tu peux pas commencer à couper les têtes de tous ceux qui sont de 60 ans et plus, mettons, tu sais. Mais pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que c'était pas le cas avant le procès de Nuremberg. Figurez-vous que à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont fait ce qu'on appelle maintenant le procès de Nuremberg, donc le procès des nazis, c'était la première fois que la communauté internationale accusait des gens en défiant la souveraineté. C'est-à-dire que c'était... Imaginez, c'est arrivé en 45-46. Je pense que c'est 46. C'est la première fois que le droit prenait le droit, si je peux dire, de s'ingérer sur la façon qu'un État traitait une population sur son territoire. Avant, c'était l'affaire de personne. Et là est arrivé, donc, le procès de Nuremberg, où là, il y a eu une espèce de coalition en disant « Hey, non, non! » Et croyez-le ou non, c'est uniquement au procès de Nuremberg, moi, j'en revenais pas quand j'ai lu ça, qu'ont été créées les expressions « génocide » et « crime contre l'humanité ». Ça n'existait pas avant. Fait qu'en un mot... Moi, je suis en rien offusqué quand je vois une nouvelle dans la presse qui dit « Les États-Unis Eux autres ont dit, tu traverses la frontière de façon illégale, il n'y a pas d'affaires d'irrégulier. Ouais, bing, tu repars, paf. Chacun peut garder son opinion là-dessus. Mais personnellement, moi, je dis, les États, incluant ici, sont souverains, ils décident de ce qu'ils veulent, qui rentre pas, comment ça marche, etc. Si tu signes une convention, tu la respectes. Mais c'est quand même surprenant de voir que c'est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, donc au 20e siècle, qu'il y a eu une espèce de droit international qui a dit « Non, non, mais c'est pas pour autant que tu fais ce que tu veux chez vous avec le monde qui sont chez vous. » Il y a des règles aussi, il y a des lois qui sont pas tout le temps, parce que là, on entend parler des Ouïghours, tu sais. Ah, imagine. Là, je suis dans l'absolu, là. Dans la vraie vie, sur le terrain, je vais dire de quoi. C'est pas chic ce qui se passe dans bien des places, mais je voulais juste parler de ça ce matin, parce que je trouve que c'est un... C'est un sujet qui est toujours touché. Puis moi, ben mon angle perso, c'est de dire, ben OK, mais au-delà du fait que tu peux pas commettre des crimes sur ta propre population, puis c'est l'affaire à ce moment-là du monde entier, ben qui rentre, ça devrait être pas pire l'affaire de chaque pays. C'est eux autres qui décident. Sur ce, bonne journée.